Nous sommes les seuls à avoir poussé la porte du Carud post-diabolo sans être consommateur de drogue, seul critère d'entrée. Si tu veux parler de tes consos, récupérer du matériel d'injection, d'inhalation, de sniff, faire un trod ou ouvrir des droits sociaux, une équipe calée t'accueille sans pression. Pause, c'est aussi des festoches, des analyses de produits, des maraudes. Les plus, tu as le droit d'y aller même si tu ne veux pas parler. Et le mardi après-midi, c'est girl friendly.
Le Carud post-diabolo, qui à la base n'était pas encore un Carud, donc est un service Dumas qui a été fondé en 96 et qui à cette époque-là était un plan d'échange de seringues. Donc qui avait des missions beaucoup moins larges qu'un Carud actuel, qui participe donc à la médiation de quartier, aux maraudes, à l'insertion, à la veille sanitaire, à beaucoup de choses. À ce moment-là, c'était uniquement vous amenez des seringues sales et on vous donne des seringues neuves. C'était déjà une grande avancée. Et en 2006, enfin fin 2005, application 2006-2007, il y a eu donc un décret qui est passé, qui a créé les CARUD, donc les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, avec donc des missions plus spécifiques, des moyens plus élaborés, une structure plus claire. Il faut savoir que historiquement, dans la réduction des risques, on parle vraiment d'un mouvement qui est né des usagers de drogue, donc pendant les années de SIDA, donc fin 80-90, ouais. Devant un postulat clair qui ne voulait pas mourir, en fait. Ouais, et puis qui a fait écho à d'autres mouvements, le mouvement gay, qui s'est beaucoup mobilisé à ce moment-là, des petites actions de migrants, ACT UP, toutes ces choses-là. C'est vraiment quelque chose qui, historiquement, est né des usagers de drogue, de mettre en place des solutions, partant du fait qu'ils avaient le droit de consommer des produits qui n'étaient pas censés être une condamnation pour autant, et qui ensuite s'est institutionnalisé, structuré, professionnalisé, etc. Donc nous, au sein du Carud, on n'a pas été fondé par des personnes concernées, ça a été fondé par un psychiatre et par un éducateur, mais ça découle quand même de toute cette histoire, mais de toute cette évolution, et donc oui, ça a, en 96, 22 ans.
Donc vous êtes
27 ans.
Vous êtes un organisme d'État, vous êtes, comment ça marche?
Donc on est bien un organisme associatif, on appartient au MAS, on est financé par l'Agence Régionale de Santé,
l'ARS,
qui finance donc les CARUD, les XAPA, les ACT, enfin, tout un tas de dispositifs pour personnes usagères de drogue. Voilà. Donc c'est de l'argent public, mais avec des délégations associatives. À savoir qu'il existe aussi donc des XAPA. Alors, un CARUD, pour prendre une image un peu simple, c'est quand même beaucoup d'actions sociales et un peu d'actions santé. Mmh. On a infirmières, médecins, etc., mais on a quand même beaucoup plus d'éducateurs. C'est quand même plus simple de travailler avec les gens. Comme je vous disais, il n'y a pas d'injonction aux soins, il n'y a pas d'obligation, c'est accompagner les gens où ils en sont et où ils veulent aller. Les XAPA, les centres de soins d'addictologie, qui sont un peu l'autre face de la pièce, qui ont aussi des équipes éducatives, à ce sens, c'est éducateur, mais une équipe médicale beaucoup plus développée, qui ont été créées par le même décret de 2005-2006. Eux accompagnent vraiment au parcours de soins des psychologues avec un traitement méthadone, des choses comme ça. Donc clairement, c'est un dispositif qui se complète bien avec une première structure à Basseuil ici. Alors Basseuil, ça peut paraître péjoratif, mais c'est juste pour signifier qu'on n'a pas de, comme je disais, on n'a pas de critères d'admission. On vous demande pas vos papiers, votre âge, votre localisation, c'est pas un sujet. On en a, ils descendent dans le sud, ils s'arrêtent à Lyon, ils veulent des seringues, ils viennent, ils repartent, on les reverra jamais. Enfin, très bien. Et donc, cette structure-là, dans le cadre du parcours de soins, amène aux XAPA, et eux, à l'inverse des CARUD, ils peuvent être associatifs, bien évidemment, mais ils peuvent également être hospitaliers.
D'accord.
Alors qu'il n'existe pas de CARUD hospitalier, c'est uniquement des structures associatives.
D'accord. Même si certains hôpitaux ont des services d'addictologie.
Bien sûr, mais là, c'est... si vous avez.
Donc, plus en curatif.
Exactement, c'est ça.
D'accord. Là, juste au niveau du CARUD, vous êtes la seule association à faire ça sur Lyon ou il y a d'autres?
Non, il y en a deux, ce qui est assez peu. Pour vous donner une idée, à Lille, il y en a 8. À Marseille, il y en a 6.
Ouais, mais Lille, on est plus près de la Belgique.
Oui, ce qui est un vrai chantier. Non, mais c'est un vrai chantier.
Oui. Je sais, j'ai vécu ça. Ah, dans Lille.
Bon, c'est un lieu de passage.
Je connais bien. C'est un lieu de passage. Il n'y a pas que ça, vous allez à Liège, qui n'est pas très loin.
Ouais, ouais.
L'héroïne, elle est à 8-10 euros le gramme.
Ah, ouais, d'accord.
Ah, ouais.
Forcément, ça joue.
C'est grave, bien sûr. Non, c'est
encore un des avantages des frontaliers.
C'est ça, exactement. L'essence, les clopes et l'héroïne. C'est que les trucs bien.
Ça, je leur laisse. L'essence, les clopes, encore la limite. Mais le reste, c'est bon. Je prends tout.
Donc là, aujourd'hui, par exemple, une personne qui va aller soit écouter le reportage, soit aller sur le site streetreporter.org. et qui se dit tiens, ben, je connaissais pas, je suis addict ou j'ai de la consommation. Donc comment ça se passe? Il vient.
Alors il vient, donc comme pour finir, donc dans le Rhône, il y a deux structures. Donc il y a le Carut Posiabolo Dumas, et qui est donc dans le 3e arrondissement, à Salte-Gambetta. Et on a un autre qui est rue Burla, dans le 1er arrondissement.
Vers les rue Burla.
Et qui dépend aussi d'Humain ou...
Non, qui dépend d'une autre association.
D'accord.
Et c'est les deux seuls du Rhône.
Ah, d'accord. Du Rhône, Rhône, carrément.
Du Rhône.
Ah, oui.
Ah, ouais, carrément. Ouais. Moi, je pensais à Lyon. Déjà, Lyon, je trouve ça historique.
Donc, c'est-à-dire que les gens de Villefranche, de Givors, etc., ils n'ont pas de.
Non, ils n'ont rien du tout. Alors, attendez, Rouen, c'est pas dans le Rhône.
Non, parce que Rouen, c'est 42.
Oui, c'est bien ça. Donc, non, c'est bien les deux seuls du Rhône.
Ah, ouais. Ah, ouais, d'accord.
C'est...
Donc, c'est
pas. Ouais, c'est neige quand même. Hein.
C'est une offre plutôt légère.
Ouais. Ah ouais, par rapport à la. Parce que moi je pensais deux sur Lyon, tu vois.
Ce qui aurait déjà pas été.
Ce qui aurait pas été extraordinaire. Ouais. Mais là sur le Rhône, c'est. Oh,
donc ah ouais, nos missions sont larges, alors on peut pas couvrir tout le territoire. On essaie de se partager avec l'autre Carude. Hein, tu prends la moitié nord, tu prends la moitié sud. Hein, la frontière, c'est le Rhône.
Il n'y a même pas d'autres antennes éventuellement de permanence éventuellement.
Ah, si, nous justement, on a des équipes qui interviennent dans des structures d'hébergement, dans des lieux d'accueil, au sein des équipes, des usagers.
Dans le cadre de maraude ou de.
Non. Enfin, il y a des maraudes.
En permanence.
Bien sûr, mais en permanence.
Ah, d'accord. Ok, c'est pas.
D'accord.
Pour justement, c'est diffuser un peu tout ça et essayer d'atteindre l'ensemble des personnes. Puisque moi, je pense qu'il faut déstigmatiser l'usage de drogue au sens premier du terme. À Lyon, on estime qu'il y a entre 10 et 12 000 usagers de drogue dits problématiques. Donc quand je parle d'usagers de drogue dits problématiques, je parle pas du mec qui fume un joint le soir en rentrant du boulot. Je parle d'usagers de drogue
quotidien,
dit dur, quoi.
Quotidien, et puis quotidien, quoi.
Alors, au moins 3 fois dans le mois.
Au moins 3 fois dans le mois, d'accord.
Et ça touche tout le monde. Enfin,
ouais.
Il faut se dire, je pense, entre guillemets, tout le monde se drogue. Quand je dis tout le monde, c'est toutes sortes de personnes.
Parce que vous disiez tout à l'heure, ça peut aller du chien, du pain avec son chien jusqu'au cadre.
Exactement.
Ou à l'avocat.
Le prisme est très large. Et
ou même un juge, peut-être.
Ouais, non, mais bien sûr.
Il y a tout.
Hein. Sauf qu'eux, on les voit pas. Quoi. C'est plus dans les salons, quoi. Ils sont aussi malades que les autres. Hein.
Mais c'est exactement ça. Et ça, c'est un travail à mener. Effectivement, c'est que les gens conscientisent qu'ils sont consommateurs de drogue et que c'est pas anodin et que c'est comme tout en fait, ça s'apprend. Alors si on s'injecte, trouver une veine, ça s'apprend. Faire ça proprement, ça s'apprend. Doser les produits qu'on prend. Enfin, il y a un apprentissage pour tout.
Et ça, vous le faites pas d'expliquer comment il.
Si, bien sûr. Si. On fait de l'accompagnement éducatif au risque lié à l'injection. On fait des ateliers de basage, de filtration pour apprendre aux gens à filtrer leurs produits, à transformer leur cocaïne en crack de façon le plus propre possible. Enfin, comme je vous dis, l'idée c'est vraiment de partir du besoin des gens. Et si quelqu'un qui fait mal son crack et qui du coup il fume autant d'ammoniac qu'il fume de crack, il se fait plus de mal que nécessaire entre guillemets.
Oui,
et ben nous le chantier c'est de faire en sorte qu'il le fasse en se faisant le moins mal
possible.
On réduit les risques.
C'est limiter, ouais, limiter.
La ligne c'est vraiment ça. Et c'est vrai que c'est un chantier d'arriver à toucher toute strate de la population pour plein de raisons. Alors si on parle des personnes en situation de rue ou d'hébergement précaire ou de choses comme ça, il y a le fait que certains ont des rejets des institutions pour plein de raisons souvent bonnes. Une méconnaissance du fait qu'on existe.
C'est ce que j'allais vous demander, effectivement, parce que
On essaye de faire notre pub, mais il y a une méconnaissance du fait qu'on existe. Il y a la question du rapport à la loi. Si vous allez dans un accueil de jour et que vous leur dites que vous êtes SDF, vous faites rien d'illégal. Si vous passez ma porte, c'est un aveu de délit. Parce que passer ma porte, c'est de vous consommer des drogues, donc c'est un aveu de délit. Donc les gens peuvent avoir peur de la police, de choses comme ça. Il y a des circulaires en place.
C'est un peu bizarre parce que vous disiez que vous étiez financé par l'ARS qui est une. Qui est l'État, en fait.
Ça, oui, l'ambivalence.
Donc, l'ambivalence, c'est l'intérieur.
Eric, nous sommes en France.
Oui, tout à fait.
Mais vous, oubliez pas.
Il y a des circulaires, justement, qui expliquent que normalement la police est invitée. Alors, c'est une circulaire, c'est pas un décret, ça invite, ça n'ordonne pas. Mais à ne pas intervenir autour des structures de réduction des risques.
D'accord.
À Lyon, ça se passe bien.
Ouais.
Moi, j'ai jamais eu de voiture de police qui plante devant chez nous pour noter qui sort.
Ouais, parce que sinon, les mecs, ils viennent plus.
C'est ça, exactement.
Oui, mais la délation, c'est tout ce que. Ça peut engendrer plein de choses. Non,
mais c'est quand même bien de souligner que ça ne. Voilà, ça n'arrive pas.
Mais tant mieux.
Pareil, quand on mène des actions en milieu festif, parce qu'on fait ça aussi, donc je sais pas moi, les nuits sonores, Repercussonde, Woodstower, ouais. Free Party dans les bois, ce que vous voulez, où là c'est encore un autre public. Dans notre secteur, je vais en parler un peu, mais la pluralité des publics est quand même assez impressionnante. Parce que par exemple, dans ces festivals, on a globalement des gens assez jeunes. Mmh. Parce que par exemple, ici, la moyenne d'âge est de 40 ans. Donc déjà,
c'est quand même une moyenne élevée.
Ça, donc ouais. On peut déjà se dire que, on a des jeunes et des moins jeunes, mais la moyenne d'âge est de 40 ans. Donc on peut déjà s'interroger sur pourquoi les consommateurs de drogue plus jeunes ne ressentent pas le besoin de venir, ou pas tous. Ouais. C'est un enjeu, ça aussi, de reconnaître soi-même qu'on a besoin d'une structure médico-sociale. Et au niveau des jeunes, justement, qu'on voit un milieu festif, encore une fois, alors le mot peut paraître un peu violent, mais ils ne savent pas se droguer, ces jeunes-là.
Ils ne savent pas boire, ils saoulent, quoi.
C'est ça, exactement. Donc notre intervention a du sens, et c'est des jeunes qui, pour eux, ne sont pas concernés par les problématiques sociales, pour beaucoup. Pas qu'ils soient spécialement aisés, mais un peu monsieur, madame, tout le monde, et qui du coup n'identifient pas qu'ils ont intérêt à en fréquenter une. Mmh. Donc il y a un rôle important à intervenir en extérieur dans ces lieux festifs. Et là, encore une fois, le travail se passe plutôt bien en corrélation avec les forces de l'ordre. On ne donne pas en fin de journée la liste des personnes qui sont venues voir.
Oui, 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 c'est clair.
Mais en parallèle, il y a peut-être justement ça aussi. Hein. Donc, comme vous dites, la façon de bien se droguer, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Mmh. Il y a peut-être aussi ça, la deuxième, de venir au Carut, c'est de se dire, est-ce que je vais être fliqué, est-ce que je vais être...
Ouais. Non, mais ça. Je pense vraiment que ça joue, c'est certain.
Ça doit jouer, parce qu'ils doivent se dire, on va être référencé dans un fichier, derrière la police, il y aura peut-être accès...
D'où l'anonymat.
Voilà, d'où l'anonymat, mais effectivement, il faut savoir qu'il y a... la personne lambda, moi, par exemple, je savais pas qu'on arrivait, on demandait une pipe à crack.
Exactement, c'est aussi simple que ça.
Donc, il y a peut-être aussi ça dans les précédents. Si je vais dans cette association-là, donc ils vont me référencer, je vais être dans un fichier, et puis derrière, si la police a accès, etc.
C'est sûr. Mais le rapport à la loi, c'est un vrai sujet dans les actions qu'on mène. Comme je vous dis, ils sont tous délinquants, en fait.
Ils sont tous délinquants, bien sûr.
Donc oui, je pense que c'est un autre frein à l'adhésion des personnes, et ça fait qu'on en perd beaucoup. Mais petit à petit, on voit quand même des choses qui arrivent à éclore. Comme je vous dis, c'est encore sur des pratiques très ciblées, mais par exemple, quelque chose qui explose en ce moment, c'est le chemsex. Alors, qu'est-ce que le chemsex ? C'est l'usage de drogue dans un cadre sexuel, avec des produits dédiés, des nouveaux produits de synthèse, alors au nom imprononçable, 3-MMC, 4-MMC, enfin... Là, depuis le début de l'année, il y en a déjà 12 de nouveaux. Hein.
De produits.
Ouais, ça sort tout le temps. Et donc, ces personnes-là, qui souvent, alors pas tous, on va pas faire cliché, mais c'est des personnes insérées parfois dans des bonnes situations, etc. Pareil, elles ressentaient pas, elles ne savaient même pas qu'on existait, alors qu'elles étaient concernées par nos missions. Donc ce travail de se faire connaître, il se fait autant auprès des personnes les plus précaires qui ne nous connaissent pas parce qu'elles n'ont pas accès à la formation, parce qu'elles sont en refus des institutions, parce qu'elles ont peur de la police, pour plein de raisons, que d'autres personnes qui juste ne se sentent pas concernées. Enfin, vous savez, il y a le slogan un peu connu, on utilise beaucoup pour l'alcool, mais dire qu'on a un problème, c'est déjà la première démarche. Et arriver à conscientiser qu'on a un usager de drogue, c'est pas simple.
C'est clair, c'est comme l'alcool.
Il y a une forme de déni, quelle qu'elle soit.
Mais on a du mal à reconnaître qu'on est malade, simplement.
Exactement.
Et vous, par rapport à votre référencement, quand il y a des grandes manifestations, style festival, concert, etc., est-ce que vous avez une démarche, vous, d'aller à la rencontre, style tenir un stand ou...
C'est un travail, à part entière. Parce qu'en fait, autant on a des organisateurs qui sont conscients que leurs événements sont propices
à des consommations de drogue, automatiquement.
Et qui du coup ils se disent autant que vous soyez là pour que ça se passe bien, autant on a d'autres événements. Chez nous,
il n'y a pas de drogue. Donc vous n'allez pas être là, parce qu'il n'y a pas d'envie.
Il y a un travail quand même de cohésion à avoir avec.
Accepter votre présence, c'est reconnaître qu'il y a un problème.
Exactement. Ouais. Si on est là, c'est que parmi les 3000 personnes du festival, il y a un pourcentage qui vont prendre des produits. Donc on a des organisateurs qui sont très à l'aise avec ça, qui reconnaissent que on bosse dans le milieu de la fête, mais de la fête il y a de la drogue, c'est comme ça.
Venez.
On en a d'autres, non, ils reconnaissent pas. Alors il y a un travail de médiation avec eux, de discussion. Alors à savoir que nous, pour l'instant, on se concentre essentiellement sur des lieux d'intervention. Alors c'est un choix stratégique parce que même si on a une équipe qui est quand même relativement importante et on travaille à l'enrichir, à la faire grandir, elle n'est pas infinie. Donc dans le cadre de nos missions, on se concentre principalement sur les lieux légaux. Mmh. En fait, je vous parlais de Woolstover, les Nuits Sonores, toutes ces choses-là. Mmh. Les soirées au Grand Zéro, au Sonic, tout ce que vous voulez, mais dans un lieu encadré.
Qui a été déclaré, etc.
Il y a une association, Kills Mining, à Lyon 6e. Eux, ils sont plus, alors c'est pas exclusif, mais ils sont plus axés sur les lieux non encadrés, illégaux. Je vous dis, bah, Technival dans la forêt, ou ce que vous voulez. Ils font ça très bien, ils mènent des missions relativement proches des nôtres dans ces lieux-là. Alors je sais pas, il faudra leur demander s'ils ont. Je pense qu'ils ont moins de problèmes à ce que les organisateurs d'un mec qui fait une free party dans les bois reconnaissent qu'il y a de l'usage de drogue.
Ouais, que le mec qui fait ça dans le 6e, quoi.
C'est ça.
Qui joue une boîte de nuit dans le 6e, ça fait désordre.
Je pense que c'est plus compliqué pour lui de le reconnaître.
Oui, c'est clair, oui, c'est clair. Oui.
Mais on y travaille doucement. Ouais. Et puis surtout, là, en fait, un truc qui est hyper important. Je pense pas, par exemple au voisinage ou des choses comme ça. Enfin, les structures de réduction des risques, quand elles arrivent dans un territoire. Les gens ont tendance à penser qu'on amène des problèmes. Ouais. Au même titre que si on va dans un festival, on va amener des problèmes. Ouais. Il se trouve que, et c'est prouvé par des rapports d'études, maintenant on les règle.
En fait. Oui, voilà.
Parce que, par exemple, vous prenez nous le fait qu'on soit là, ça amène à avoir moins de seringues par terre, avoir des bêtes moins énervées, qui trouvent, qui ont un lieu où tomber s'ils sont pas bien pour se reposer. Et globalement, quand il y a un problème, vaut mieux le régler que fermer les yeux.
C'est clair.
Alors ça fait écho au travail qu'on mène à Diotière avec la ville de Lyon, qui va être un travail long, hein, parce qu'on n'a pas prétention à résoudre l'ensemble des problèmes.
Ouais.
Déjà, c'est pas que des problèmes de drogue, pour commencer.
C'est ça,
mais quand bien même celui-là, il y a un chantier dans le temps long. Mais effectivement, la présence des structures de réduction des risques facilite la vie des quartiers. On est à Paris, Gare du Nord, quand la salle de consommation, ce qu'on appelle vulgairement une salle de shoot,
c'est un salle de shoot.
Tout le monde a. Enfin, tout le monde, beaucoup ont gueulé, etc.
Ouais, bah oui, bien sûr. Crié au loup.
Ouais. Bah ouais, mais au final, je pense que le père de famille lambda, il préfère que la personne se fasse son injection dans un bol sécurisé que dans son hall d'escalier.
Oui, c'est clair. Donc, la vue est au-dessus de tout le monde, c'est clair.
Donc avec le temps, on se rend compte qu'il y a une plus-value. Et pour les actions en milieu festif, c'est la même dynamique. Quand on nous voit arriver avec nos seringues, nos pipa crack, nos flyers, nos dépistages de VIH, nos machins, bah les gens commencent à dire qu'on va apporter les problèmes qu'on vient régler. Donc non, les problèmes ils sont là de base.
Déjà, ouais, ouais, c'est ils ça. Sont, ouais, ouais.
On n'amène pas un camion d'usagers de drogue quand on va quelque part.
Allez les gars, c'est ouvert.
Donc voilà, petit adhésion dans notre travail, mais c'est pas évident.
Ouais, c'est clair qu'il y a tout un business à faire, tout un boulot à faire, d'anticipation, de compréhension.
C'est ça.
Donc là, vous parlez aussi, donc bon, on a vu l'accueil, la personne vient récupérer son matériel, on parle bien du matériel, hein, pas, de, pas de la fourniture, la matière première,
on va dire. Non, là, on n'en est pas là.
Donc voilà. Et la personne qui vient en disant, j'ai un problème, aidez-moi.
Ouais.
Donc comment ça se passe? Donc vous avez des.
Alors là, on a des liens assez privilégiés avec différents services, donc l'EXAPA, je vous présentais. Mais aussi le service universitaire d'addictologie lyonnais, qui est rattaché au Binati et aux HCL. Enfin, on peut ça. Enfin, si à l'heure actuelle vous voulez vous lancer dans un parcours de cure, par exemple, tout seul, il va falloir être un peu courageux et bien outillé, quoi. Autant au niveau des démarches administratives que de la multitude de choses qui existent, qui sont toutes très spécifiques et très différentes. Enfin, donc, pour ces personnes qui veulent rentrer dans ces parcours de soins-là, on les accompagne physiquement et administrativement. Pour pouvoir enclencher ça, justement. On est vraiment la première porte d'entrée pour pouvoir accéder à tous ces dispositifs qui sont méconnus, mal connus, complexes. Voilà, on sert d'interface pour faire remonter justement ce besoin-là et trouver une solution.
D'accord. Donc, de toute façon, on mettra, donc comme on l'a dit en préambule, on mettra le. Enfin, on le fera, mettre le lien directement. Là. Sur votre, comme ça les personnes intéressées trouveront des informations complémentaires ou éventuellement des contacts, puisque je pense qu'il y a
il y a grand plaisir, on accueille tout le monde.
Donc vous, au niveau de l'accueil, c'est tous les jours de...
Alors, il y a différentes choses. C'est-à-dire, si vous voulez récupérer du matériel de consommation, c'est tous les jours de 10h à 18h, sauf le mercredi après-midi.
Mais c'est sans rendez-vous, on appelle
sans rendez-vous, sans rien.
D'accord.
Ensuite, il y a des temps d'accueil dédiés collectifs, où là, on fait couper du café, on accueille des gens, ils peuvent se poser, rester plus longtemps. Donc ça, c'est le lundi après-midi. Le mardi après-midi pour les femmes, parce que les consommations de drogue pour les femmes, c'est tout un sujet. Mmh. Au même titre que les femmes à la rue, c'est quand même des domaines où le genre a son importance.
Oui, bien sûr.
Le mercredi matin, Le jeudi après-midi, c'est des temps thématiques, ça peut être des vétérinaires, différentes choses. Mmh. Et le vendredi après-midi. Voilà. Et le matin sont des temps en général où on intervient à l'extérieur, où on prend des rendez-vous individuels avec les gens, enfin, ces choses-là. Mmh. Donc ça fonctionne comme ça. Il y a un fil rouge. Vous pouvez toujours frapper à la porte pour avoir une seringue, une bipacral, etc. Mais les temps où vraiment on est ouvert sont plus l'après-midi.
D'accord, ok. Et là, par exemple, est-ce que vous organisez des sessions sur comment bien préparer sa drogue, comment, est-ce qu'il y a des...
Alors, il y a deux choses. Si quelqu'un vient et pose la question...
Des TP
Ouais, un peu ça.
une information générale, ouais, dans le groupe. Alors, je sais pas après si des personnes...
Justement, c'est... pour être transparent, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour l'instant à l'échelle individuelle. Si quelqu'un nous pose des questions, on y répond. On a même un faux bras pour faire des injections dans le cadre de la AirLip, et même faire une injection sur lui, on reprend, on donne des ateliers de basage, de filtration, on fait beaucoup de choses directement avec la personne. Au niveau d'une démarche collective, c'est quelque chose qu'on essaye justement d'instaurer, c'est un des chantiers 2022, de pouvoir mener ces questions thématiques en groupe, parce qu'en fait, alors on peut toujours répondre aux gens individuellement, mais je pense que l'intelligence collective a quand même quelques vertus. Mmh. Et il y a des choses qui émergent quand on est 5, 6, 7, peu importe, que quand on est tout seul.
Bien sûr.
Il y aura toujours, par exemple, machin qui va oser aborder ce sujet que moi j'ose pas, qui me concerne.
Ouais,
ça crée une émulation.
C'est ça. Donc ça, c'est une dynamique vraiment qu'on essaye d'instaurer, de réinstaurer même, c'est plutôt le mot, parce qu'en fait, elle a pris une grosse claque pendant les confinements. Nous, on est une structure médico-sociale qui accueille des personnes qui, pour certaines, sont immunodéprimées. Donc on a eu des jauges d'accueil assez strictes par rapport à d'autres services de jour. Il y a des jours où on était entièrement en service à la porte, enfin, on a un peu essayé de s'adapter en temps réel aux multiples bouleversements sanitaires.
Changement de règles.
Et c'est vrai que la dynamique collective a pris une petite claque. Alors c'était un... Par contre, ça a émulé plein de choses, parce que comme on ne pouvait plus voir les gens à l'intérieur, on a d'autant plus été les voir dehors, chez eux, dans leur foyer, dans leur appart, ce que vous voulez, leur pension de famille, ce que vous voulez. Mais au sein même du collectif, il y a une émulation, il y a une dynamique à relancer que le confinement, les confinements et les mesures sanitaires, parce qu'il n'y a pas que le confinement.
Ouais, ouais,
nous, par exemple, à Noël, là, normalement, on fait un repas de Noël, c'est sympa, on cuisine, on mange de la bûche, on est content. Ouais. Là, on a dû faire des petits doggy bags que les gens ramenaient chez eux.
Parce
que fin Noël, on était en vague haute et on ne pouvait pas
se faire des bêtes.
C'est ça,
comme tout le monde. Comme les vieux, les mairies, elles faisaient des repas début, elles les livraient à la maison.
Bien sûr,
la salle des fêtes.
Tout de suite, beaucoup moins
Covid, ça bouleversait plein de choses.
Donc, il y a du bon, et je pense qu'un des chantiers d'ailleurs qu'on va avoir dans le travail social dans l'ensemble, parce que c'est un accélérateur de plein de choses, le Covid. On le voit au niveau de l'hébergement, des mesures.
La précarité au sens large.
Il y a eu des choses qui ont été faites, et maintenant, je pense que le travail, ça va être de conserver le bon que ça nous a amené, tout en remettant au travail ce qu'on a perdu en route.
Bien sûr.
On a perdu du bon aussi. Et avec du bol, comme quoi toute chose malheur est bon, peut-être qu'à la fin on en sortira meilleur qu'on y était à l'entrée. Mais là, du coup, il y a un travail de remobilisation de ce qu'on faisait avant et qu'il faut adosser aux choses qu'on a développées pendant la crise sanitaire. Et le collectif en fait partie. Donc là, on a une liste d'ateliers. Si vous êtes curieux, on vous l'enverra. Qui sont assez larges et variés pour essayer.
Parce qu'on la retrouve sur le site de toute façon. Non.
Alors en fait, sur le site, non. Sur le Facebook, on essaie de communiquer. En fait, on s'est rendu compte que
c'était
un terrain qu'on n'occupait pas. En fait, les réseaux sociaux et à tort, en fait. Mais ça, c'est des images qu'on a, hein, mais. Tout le monde est sur Facebook en fait. Et du coup,
c'est clair que maintenant c'est la meilleure communication.
Exactement,
c'est mieux que les flyers, hein. Il n'y a pas photo. Hein.
C'est ça,
et puis c'est peut-être complémentaire les flyers quand même.
Ouais, mais le flyer, mais je suis pas pour.
Parce qu'après, il y a aussi par exemple, si tu prends des gens précarités dans la rue qui n'ont pas nécessairement accès à internet facilement ou régulièrement, d'avoir un flyer avec un téléphone et une adresse à l'ancienne, ça peut.
Ça empêche pas. On essaie d'avoir une communication plus active là-dessus. Notre site internet, il est vraiment un peu plus institutionnel. On se présente nos missions, des grandes lignes de ce qu'on fait, mais on n'y poste pas tous les jours.
Sur
la page Facebook, on essaie de la faire vivre un peu tous les jours. Et surtout, c'est une interface pour être directement en communication avec des gens. Alors, pareil, hein, c'est quelque chose qui s'est mis en place aussi en 2021, confinement, etc. Mais Ça peut aussi être un premier pas pour rentrer en contact avec nous. Mmh. Quelqu'un qui n'ose pas venir ici, ouais, aussi, mais qui veut commencer à nous parler, il peut nous parler.
Il y a des moments, la rencontre physique est dure pour certaines personnes.
C'est ça, exactement. Alors, il peut parce qu'il est loin, il n'est pas véhiculé, parce qu'il n'ose pas.
Là, surtout s'il est loin de Lyon, quoi, si c'est par exemple un gars qui est à Givors ou à Sainte-Foy, ça va venir à Lyon, c'est peut-être pas toujours évident.
Non, c'est pas toujours évident.
Tout à l'heure, là, vous parliez d'aller à la rencontre des gens, donc, parce qu'avec Atlantide, en préparant le rendez-vous, nous avait parlé que vous faisiez des maraudes.
Oui.
Alors, nous, on a en tête la maraude du 115 ou la maraude du SAMU social sans charge. Ouais. Donc, concrètement, comment ça se passe? Vous êtes en véhicule? Vous allez. Si on prend des gens, par exemple, plus axés SDF ou.
Bien sûr. Voilà. Non, tu représentes une grosse partie des gens qu'on accompagne, hein, c'est une réalité. Donc, il y a aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est des maraudes qui se font à pied. Alors, ils peuvent aller en voiture sur le quartier, mais ils le font à pied, parfois en vélo. À deux ou trois, avec des équipes de préférence mixtes éduc-infirmiers. Mmh. Et là, on est vraiment sur un travail de rencontre des gens, de faire savoir qu'on existe dans notre lieu, ce qui n'est pas toujours le cas. Mmh. Parfois de médiation sociale indirecte, pour intervenants à Diotière, à Mazagran, tous ces lieux un peu de tension. Et également donc de mise à disposition du matériel, d'informations sur nos missions, de collecte de produits, puisque comme je vous le disais, on a aussi un laboratoire d'analyse de drogue, donc on peut collecter les produits des gens pour leur dire ensuite le lendemain ou le surlendemain ce qu'il y a dedans.
Ah, ça c'est bien.
Donc nos maraudes font vraiment ça à l'heure actuelle, c'est vraiment délocaliser une partie de l'activité, donc l'accès au matériel, l'accompagnement éducatif à la réduction des risques, les soins de première urgence qu'on a besoin, et faire connaître la structure. Ensuite, là, on est en train, on a reçu de l'argent de l'ARS pour pouvoir nous équiper d'un van aménagé. Et là, ça va être intéressant, puisqu'en fait, on va vraiment pouvoir délocaliser l'ensemble de l'activité. C'est-à-dire que des soins, des dépistages, plus de matériel. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir un carrousel roulant. Mmh. Et comme on ne peut pas être partout, on va essayer quand même d'identifier un circuit. Donc, on est en train de construire avec les lieux vraiment importants où on doit être. Ouais. Et d'assurer des permanences avec ce van, le lundi, je vous dis au hasard, mais le lundi à Gretière, le mardi à Gretfiel, où vraiment c'est un endroit sur place où les gens savent qu'ils peuvent y aller. Parce que la maraude, l'intérêt de ça, c'est qu'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, ou pas souvent qu'on ne connaît pas. Alors il y a toujours des personnes qu'on revoit et qu'on connaît, mais des personnes qu'on ne connaît pas, ça permet de se faire connaître, etc. Mais on se rend compte quand même qu'il y a une séparation entre les personnes qui fréquentent la structure et les personnes qu'on voit dehors. Encore une fois, pour plein de raisons, c'est loin de là où ils sont, ils veulent pas être en structure d'accueil, ils aiment pas ça.
Je parlais tout à l'heure, le référencement, il y a la crainte de se faire...
Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une petite antenne sur vous, où les gens sauront avec
quel jour ils sont là,
quel jour on est là, et là, ils peuvent venir nous voir.
Est-ce que mettre ça sans frontières?
Exactement.
C'est bien d'avoir un point fixe, une date fixe.
Les lundis sont là, le mardi sont là, le mercredi sont là.
C'est ça. Donc nous, on tend vers ça. Donc à l'heure actuelle, c'est effectivement deux, trois fois par semaine des équipages à pied. Ce qui déjà montre des choses.
Ouais, bien sûr.
En 2021, c'est plus de 2000 contacts avec des personnes. C'est quand même.
Mais là, les maraudes à pied, vous allez chez des gens que vous connaissez l'adresse ou...
Alors, c'est encore... encore autre chose. Donc là, je parle des maraudes à pied. En plus de ça, il y a des actions d'intervention en hébergement. Donc ça peut être des foyers qui sont au sein du MA ou d'autres associations. On peut intervenir auprès des équipes. On a des équipes qui sont demandeuses d'être sensibilisées à ces questions. Parce qu'en fait, un travailleur social, dans sa formation initiale, c'est des sujets qui sont très très peu abordés. Donc on peut se retrouver démunis quand on est en contact avec ces personnes qui ont ces problématiques. Donc on peut former les équipes, c'est une démarche qu'on fait. On peut aussi mener des permanences au sein des structures. Bah, par exemple, chez Atlantide à la Péniche, on y est une fois par mois. Enfin, pour être en lien avec les gens. Ça, c'est les actions d'hébergement. Et en plus de ça, on mène également des actions de visite à domicile. Alors que pour des raisons RH, on est obligé de limiter, toujours à regret. L'argument, c'est quand même des personnes qui ne peuvent pas venir ici. Alors, on a des personnes qui sont interdites de territoire, des personnes qui sont en mobilité réduite, plein de choses. Loin. C'est un grand mot, mais on en parle de quelqu'un qui va être vers, je sais pas moi, Écully, les Monts d'Or, etc. S'il n'a pas de bagnole, c'est quand même un sacré chantier pour venir. Donc on mène aussi ces actions à domicile-là, mais encore une fois, c'est une action à domicile dans le cadre de nos missions. C'est-à-dire qu'on ne vient pas vérifier si c'est bien rangé, s'il y a de la bouffe. S'il en parle, il n'y a aucun sujet qui n'est pas abordé. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de...
Ouais, c'est pas une intrusion, quoi.
C'est ça. on a des cas, on espère toujours que ça va donner lieu à quelque chose derrière, mais si quelqu'un, par exemple, qui ne peut pas venir nous appelle et veut simplement qu'on lui livre des seringues, des aiguilles et de l'eau stérile, eh ben on y va et on lui livre, en fait. Alors, bien évidemment qu'on espère toujours pouvoir engager une relation, un travail avec lui, etc., l'accompagner pour aller vers le mieux. Mais c'est pas obligé, en fait. Il a le droit juste de vouloir qu'on lui dépose et qu'on se casse.
Voilà, c'est tout.
Et le cachet, on lui dépose et on se casse.
Ok. Bon, bah, je crois qu'on a bien, on a bien fait le tour. Tu avais d'autres questions?
Non,
je crois qu'on a bien suivi. Bon, tenez à vous remercier pour votre accueil, pour toutes ces explications qui, j'espère, seront très utiles pour certains. Bon, comme on a dit, on mettra le lien avec le, avec notre site, comme ça les personnes qui sont intéressées peuvent prendre directement contact. Et ben, du moins, dans un premier temps, se renseigner, ensuite prendre contact.
Ça marche. Bah, donc, c'est une info complémentaire, en tout c'est pas clair, vous m'écrivez.
Eh ben, y a pas de souci. Ben, merci encore pour votre accueil.
Bon, Pierre, on est à côté.
Oui, exactement.
C'est pas très dur de se voir.
Ok, ben, merci à vous.